France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Dans le Tarn, la société coopérative COPHAB est la référence en matière d'habitat participatif à Castres et à Albi. Cette structure suit les projets de construction de leur écriture à leur réalisation, qu'ils soient issus de la société civile et de particuliers ou qu'ils émanent de collectivités locales. Christian Pillard, gérant de cette société coopérative d'intérêt collectif, autrement dit une SIC, est notre premier interlocuteur. J'ouvrirai ensuite un dossier tout nouveau élaboré par nos confrères du magazine Village, puisque dorénavant le trimestriel insérera dans ses pages des cahiers de la ruralité, le premier consacré à la mobilité. Nous en parlerons avec Sylvie Le Calvez, directrice de publication du magazine.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Christian Pillard, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour Philippe.
On est ravis de vous recevoir, vous, parmi les promoteurs d'initiatives de nouvelles vies en France pour cette nouvelle année 2022. Vous gérez une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif autour de l'habitat participatif, entre autres, qui s'appelle COPHAB. Vous avez été formé à l'habitat participatif vous-même, Christian ?
Oui, tout à fait. En fait, il y a une formation qui existe en France pour devenir accompagnateur de projets d'habitat participatif. Donc, c'est dû effectivement à une demande aussi des groupes projets. Il y a de plus en plus de groupes projets en France et des collectivités locales qui s'engagent sur ces projets d'habitat participatif. Il fallait former des professionnels pour faire aboutir ces projets, en fait, parce que ça demande des outils et une certaine méthode, parce qu'aujourd'hui, l'habitat participatif, c'est au niveau national, il y a pas mal d'acteurs qui s'engagent, les collectivités locales, les bailleurs sociaux, etc. Donc, il fallait mettre en place une formation pour que les personnes puissent accompagner tous ces projets qui émergent au niveau national.
On a déjà eu de nombreux exemples d'habitat participatif, mais j'en reviens quand même à la définition. Comment définir l'habitat participatif?
Tout d'abord, l'habitat participatif, c'est chacun est chez soi et partage avec ses voisins des espaces communs. Du coup, c'est aussi créer de la solidarité, de l'entraide, du lien social, etc. C'est des groupes qui se mettent en mouvement pour habiter autrement et vivre autrement. Il y a aussi la mixité sociale, la mixité intergénérationnelle. Il y a aussi la propriété collective, ou non.
La difficulté, c'est la préparation. Et c'est là où, où vous intervenez, vous, en tant que SIC COPHAB, parce que vous mettez face à face toutes les parties prenantes du programme d'habitat participatif.
Tout à fait. Alors, en fait, quand on démarre un projet, en fait, il y a quatre, je dirais, thématiques. Il y a le groupe et la relation au groupe, en fait, hein, la relation à soi-même et puis au groupe, l'architecture, le financier et le juridique. Donc, une fois qu'on a effectivement ces quatre thématiques, ben on travaille sur ces thématiques. Ça veut dire qu'on va définir les valeurs. Qu'est-ce qui nous amène effectivement à faire de l'habitat participatif? Les valeurs, la raison d'être, la gouvernance. Mais comment le groupe va organiser son plan de travail, hein, donc des réunions, etc. Donc, l'architecture également, avec un pré-programme architectural, et le juridique et le financier qui vont se travailler pratiquement en même temps. Souvent, en fait, les personnes ou les groupes créent une association, souvent collégiale, hein, qui permet effectivement d'avoir un statut et de regrouper des personnes autour du projet. Et ensuite, les groupes travaillent sur la forme juridique, et souvent la forme juridique, hein, elle est un peu l'aboutissement du projet d'habitat participatif, puisque on a besoin de définition des valeurs et de la raison d'être et de la gouvernance, hein, se mettre d'accord pour trouver en fin de compte quelle forme juridique est adaptée au groupe. Donc c'est un travail long, on ne monte pas un habitat participatif en un an. C'est au bout de 3 ans, en fait, qu'on peut envisager alors il y en a qui commencent avant, hein, commencer à faire les travaux, en fait. Hein, voilà. Tout dépend comment le groupe démarre son projet au départ. La SIC, elle accompagne des projets d'habitat participatif, mais elle fait la conception, construction et réhabilitation écologique pour les particuliers, les groupes habitat participatif, puisque en fait, mon travail à moi, c'est je suis un généraliste de l'accompagnement, donc du coup, je suis pas architecte ni juriste. Et ensuite, la SIC, c'est la possibilité, effectivement, de continuer avec la SIC et de pouvoir travailler avec la SIC, la conception et la conception, construction ou réhabilitation écologique. Et on se rajoute, depuis très peu de temps, puisque aujourd'hui, la SIC est organisme de formation dans le domaine de l'éco-construction, mais aussi dans le domaine de la facilitation. Et pour cela, on crée des partenariats avec Envie en Jeu, qui est national, mais qui se trouve tout près de chez nous, en Aveyron, avec qui on travaille sur des projets de formation au développement des pratiques coopératives et qui, effectivement, se rapproche beaucoup de ce que l'on fait, nous, à travers donc l'accompagnement des groupes Habitat participatif.
Et vous citiez l'Aveyron, vous intervenez dans le Tarn aussi, plus particulièrement, parce que c'est notre fil conducteur de la semaine, mais aussi dans d'autres départements limitrophes.
Et on a opté, dès le départ, en fait, suite à une association de préfiguration, parce que la SIC a été créée en 2016, suite à une association de préfiguration, dès le départ, le conseil d'administration qui était dans cette association avait pour objectif de faire des actions en milieu rural et donc agir dans la proximité.
Le site internet, c'est copab.fr. Oui. Bah, belle année à Copab, cher Christian.
Merci, merci beaucoup Philippe, merci.
France Inter, carnet de campagne.
S'inquiéter du sort de notre planète, se sentir solidaire des personnes qui contribuent à l'amélioration de notre cadre de vie et promouvoir ceux qui se battent contre les dérèglements qui assaillent notre environnement. Je pourrais prolonger les arguments à l'infini, tellement ils sont nombreux pour donner raison aux aventuriers modernes. Dernier exemple en date, le projet porté cette fois par l'association Voyage en patrimoine, dont Marine nous rencontre, le prénom de notre correspondante tombe à point d'ailleurs, puisqu'il est question d'une exploration de l'océan Atlantique qui devrait démarrer à l'automne prochain. L'association se dit de contenu hybride, en croisant le sport, le travail manuel, les arts et la technologie. Alors concrètement, il ne s'agit pas de partir simplement à la découverte du monde, mais de mieux comprendre les écosystèmes naturels et humains et les liens qui se tissent entre les uns et les autres. Voyage en patrimoine réunit des scientifiques, des historiens, des scénographes, des artisans, des artistes, et tout ce monde a pour intention de rencontrer les chercheurs du monde entier. L'exploration se fera au sextant pour reprendre les bons outils d'un temps révolu, histoire justement de prendre le temps de remettre la main sur ce temps qui nous échappe. Tout au long du voyage, l'équipage réalisera un programme pédagogique composé d'un magazine, de vidéos et d'expositions à destination de lieux culturels. Des partenariats sont déjà engagés. Il n'est pas trop tard pour continuer à entrer dans la ronde et dans la boucle, ainsi que des écoles. Ce projet baptisé Dans le sillage des étoiles fait suite à une première opération plus proche de chez nous qui s'appelait Pagayer au fil de la Loire, qui consistait à parcourir la Loire sur 600 km à bord de canoë. À suivre donc voyageenpatrimoine.fr. Sylvie Le Calvez, bonjour.
Bonjour Philippe.
Nous ouvrons un nouveau dossier du dernier numéro du magazine Village, villagemagazine.fr pour l'adresse, je le rappelle. Alors c'est une nouveauté, vous avez décidé dorénavant de créer des cahiers de la ruralité.
Oui, on s'est dit voilà, c'est une année en plus électorale, hein. Il y a des grands enjeux à traiter, notamment pour évidemment le monde rural qui nous occupe. Là, c'est la mobilité, dans ce premier numéro, un cahier spécial, mais ça peut être la santé, la jeunesse. On est en train de travailler sur les dossiers suivants, et on s'est dit qu'il faut aller plus loin pour décortiquer les enjeux, puis travailler, comme on le fait d'habitude, sur le terrain, aller voir les expériences, là, celle effectivement sur la mobilité, demander le témoignage d'experts pour mieux voir ce qui peut se faire ou ce qui ne peut pas se faire ou les difficultés rencontrées pour traiter ces enjeux demain.
Oui, c'est un cahier de 16 pages qui est vraiment très complet. Vous vous arrêtez grandement sur la vallée de l'Ariège.
Oui, alors parce que en Occitanie, déjà, de façon globale, sur la région, il y a une vraie politique autour de la mobilité. Donc ça nous paraissait une région tout à fait judicieuse. Et puis, à Saverdin, hein, le maire était un des pionniers, Philippe Caléja, dans cette question des transports. C'est une petite ville de 5000 habitants, je crois environ. C'est notre reporter Axel Puig qui est allé sur place et qui a tout fait en train et vélo, pour expérimenter en même temps le fait de faire le reportage sans sa voiture, d'ailleurs, je le signale. Et donc, dans cette petite ville, depuis 2017, ils mettent l'accent sur le vélo. Et les agents municipaux, par exemple, ont rénové 150 vélos qui seraient partis à la déchetterie. Et ça a coûté à peu près 15 euros l'unité pour les mettre à disposition de la commune. Et puis, ils ont aussi acheté quelques vélos neufs pour les écoles, pour sensibiliser les enfants. Donc, il y a depuis longtemps cette politique autour de la mobilité et du vélo qui, maintenant, ne s'arrête pas au vélo. Hein. Il y a du multimodal, il y a du train. Mmh. Mais c'est vrai que ça nous paraissait intéressant d'aller voir cette première commune, puis communauté de communes, et ensemble de communautés de communes, maintenant, qui travaillent sur cet aspect de mobilité. Toutes les choses ont changé depuis la loi mobilité de 2019, où beaucoup ont pris des compétences, où travaillent cette question de la mobilité.
Mmh. Et alors, la ville de Foix, au cœur de la communauté de communes Porte d'Ariège-Pyrénées, s'est emparée de la compétence mobilité, fait figure de meneuse. Ça veut dire que tout est régi à partir des organisations qui sortent du bureau de Foix.
Oui, alors avec quand même une action, je le disais tout à l'heure, de la région, hein, qui était quand même compétente sur cette question des transports. Mais néanmoins, effectivement, ils ont décidé de réfléchir globalement avec le maintien du fameux train nuit Foix-Toulouse, qui est un véritable succès, hein, quand même, de faire de la gare un nœud multimodal où il y a une place pour le piéton, des places pour le vélo, des bornes pour la voiture électrique, de travailler cette question-là, d'investir énormément dans les pistes cyclables. Il faut savoir aussi que sur un territoire comme celui-là, 68% des gaz à effet de serre sont liés à la question des transports, et puis 45% des déplacements faisaient moins de 5 km. Donc quand on voit ça, on se dit il y a vraiment des choses à faire, surtout que le budget mobilité des ruraux particulièrement est très élevé, hein, puisqu'on est à 16% à la campagne contre, par exemple, 10-12% à Paris. Donc c'est énorme, et c'est un enjeu considérable, non seulement de transition écologique, mais aussi économique, évidemment.
Mmh. Bah oui, je voulais le dire, Village Magazine, comme en grande partie et les carnets de campagne, sont très portés vers la ruralité. C'est bien le déplacement, la mobilité en milieu rural qui pose problème. Vous dites d'ailleurs en France, plus généralement, 20% des personnes en âge de travailler rencontrent des difficultés pour se déplacer. Alors quand on est dans un quartier, un territoire rural, on fait quoi? On peut imaginer un réseau d'autopartage?
Oui, c'est une des pistes, hein, l'autopartage, le renforcement de la sécurisation du vélo aussi, quand même. Hein. L'autopartage, bien sûr, tout ce qui est système de mise à disposition de voitures partagées, que ce soit par des communes ou par des associations. Et puis, il y a aussi un enjeu de sécurité dont on n'a pas parlé, mais 11% des accidents mortels, ils sont en milieu rural, hein, c'est 2% seulement en ville, et on n'y pense pas trop non plus, pas souvent, mais travailler sur la mobilité, c'est travailler sur tous ces enjeux-là, les enjeux sociaux, hein, de ceux qui ne peuvent pas se déplacer, les enjeux économiques, les enjeux d'attractivité, les enjeux de transition. C'est pour ça qu'on a commencé effectivement par ce dossier.
Ouais. Et on prépare en Haute-Garonne le train pour 2025 à hydrogène.
Oui, à Luchon, effectivement, Haute-Garonne. Ça, c'est vraiment, bien sûr, c'est en cours d'expérimentation. C'est pas lancé, hein, mais c'est un peu un fer de lance de la région Occitanie qui dit, bon voilà, on veut vraiment trouver d'autres modèles, et pourquoi pas très prochainement un train hydrogène à Luchon. On suivra ça de très près, en tout cas.
Ouais, bonne initiative, effectivement. Nous, ça nous intéresse aussi. Les cahiers de la ruralité, demain tous mobiles, ça c'est la nouveauté numéro 1 dans le magazine Village. Hiver 2021-2022, 16 pages d'informations bien complètes sur cette question qui concerne tout le monde. Merci beaucoup Sylvie.
Merci Philippe, à bientôt.
Je vous parlais tout à l'heure de l'expédition vers l'Atlantique sur le sillage des étoiles. Voici un autre itinéraire sous les étoiles, plus posé au rythme de la marche, à partir du parcours emprunté par Robert Louis Stevenson, jeune écrivain, âgé alors de 28 ans, la santé fragile, qui se rendra célèbre par son voyage avec un âne dans les Cévennes, entre autres. Aujourd'hui, c'est une voix, une personne dont le nom est inscrit dans la mémoire des émissions de France Inter, qui vient de reprendre ce parcours à son compte, Gwenaël à Bolivier. Salut Gwenaël. Sous le titre de Marche en plein ciel, notre ami met l'écriture à l'épreuve de la marche. En une soirée, le projet se dessine de quitter les espaces confinés, verrouillés par la crise sanitaire, pour se confronter à une réalité plus tangible, moins contraignante, celle d'une longue marche aussi intérieure qu'extérieure entre l'Auvergne et la Provence. La marche, je cite, nous augmente intérieurement d'un espace qui fait que nous devenons plus grands que nous-mêmes. Quelque chose en nous s'ouvre et s'étire, en même temps que notre conscience se déploie. On s'enrichit d'une présence au monde, d'un regard plus large et plus précis, d'une empathie envers les autres. Fin de citation. On pense à la rêverie d'un promeneur solitaire et à une invitation non pas à nous mettre en retrait du monde, mais à respirer l'univers dans son entier sous les guirlandes d'étoiles qui rendent la marche plus festive et plus joyeuse. Ça s'appelle Marche en plein ciel, ça va sortir demain en librairie aux éditions Le Mot et le Reste, et c'est signé Gwenaël à Bolivier.